Utilisation des logiciels libres en bibliothèque, c'est le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons en parler avec nos personnes invitées, donc Rosario Echeverri, responsable du pôle informatique numérique et évaluation de la médiathèque de Villeneuve-d'Ascq, membre de la commission numérique de l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France. Bonjour Rosario.
Bonjour.
Nous avons aussi Anouk Eichen, médiatrice numérique pour la médiathèque du RIS à Villeurbanne. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Et Arnaud Vessade, responsable de la médiation numérique pour le réseau des bibliothèques de Toulouse. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavoue.org/264 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Donc pour notre sujet principal, on démarre traditionnellement en demandant à nos personnes intervenantes de faire une courte présentation personnelle pour commencer à les connaître. Je passe la parole peut-être à Anouk Eichen.
Oui, merci. Alors moi, je suis bibliothécaire comme tous mes collègues, mais avec cette petite spécialité du numérique dans une bibliothèque municipale de quartier qui est au sein d'un réseau de 3 bibliothèques. Moi, je suis pas dans la plus grosse. Et dans cette bibliothèque, du coup, je m'occupe un petit peu des collections informatiques, un petit peu de la maintenance de premier niveau. Et je fais des ateliers, des formations, des cafés sur le sujet du numérique. Et moi, à la base, je suis venue au monde des bibliothèques plutôt par le numérique, mais je suis venue au numérique plutôt par le libre et les alternatives. Je suis pas tellement technique. C'est vraiment la dimension émancipatrice du logiciel libre qui m'a intéressée et qui fait que je me suis investie dans les associations, j'ai fait du bénévolat et ça m'a permis comme ça de rentrer par la petite porte dans les bibliothèques. 2 ans à Lyon et puis maintenant depuis 3 ans à Villeurbanne.
Et on verra plus dans le détail toutes les activités que tu proposes et que la médiathèque du RIS propose. On va passer la parole à Rosario Echeverri pour une présentation personnelle.
Oui, bonjour. Donc moi c'est Rosario Echeverri. Donc je travaille, comme je l'ai dit, à la médiathèque de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, où je m'occupe du pôle informatique numérique et évaluation. Donc je suis dans ce poste depuis août 2025. Donc j'arrive pour aussi faire toute la média, enfin développer la médiation numérique au sein de cette collectivité. Donc c'est une bibliothèque municipale également. Et moi je suis arrivée au monde de bibliothèque il y a 6 ans par rapport à sur la question du numérique également. Donc je viens d'une formation qui n'est pas vraiment bibliothécaire, mais c'est depuis 6 ans que je travaille et puis que je me suis formée en travaillant sur les aspects numériques en bibliothèque.
On va profiter pour rappeler que nous avons déjà consacré une émission de Libre à vous aux bibliothèques Libertés Informatiques. C'était en fin 2022, donc il y a 3 ans. Vous pouvez la retrouver en saisissant libreavoue.org/156. La particularité de cette émission à l'époque, c'était que c'était avec 2 personnes bibliothécaires qui travaillaient dans des bibliothèques universitaires, donc qui avaient cette particularité. On va voir peut-être s'il y a de différences par rapport à la promotion et à la pratique du libre dans les bibliothèques municipales. Donc, je crois que c'est bon. Arnaud, normalement, est contacté. Je suis ravie de te donner la parole donc pour une petite présentation personnelle.
Moi, je m'appelle Arnaud Vessade. Je suis bibliothécaire pour le réseau des bibliothèques de Toulouse, qui est un gros réseau de 21 bibliothèques. Et je travaille dans un service support, le service numérique. Et je suis plus particulièrement responsable de la médiation numérique, c'est-à-dire toutes les actions de médiation envers les usagers et envers les publics qui concernent des médias numériques.
L'idée du sujet principal de ce jour m'a été donnée par une enquête qui a été lancée en octobre 2024, donc c'était l'année dernière, et qui s'est terminée en février 2025, donc elle a duré quelques mois. Une enquête qui a été lancée et coordonnée par l'ABF, donc l'Association Bibliothécaire de France, et plus particulièrement par sa commission numérique, dont Rosario fait partie. Et c'était une enquête, mais je vais peut-être laisser Rosario prendre la parole pour nous expliquer un peu plus quels étaient les buts de cette enquête. Pourquoi vous l'avez lancée?
Alors oui, moi je fais partie de la commission numérique depuis 2021, donc quand elle a été créée. Donc l'ABF, peut-être d'abord
oui,
dire
l'ABF. Tout à fait, une petite présentation de l'ABF, tout à fait.
Oui, donc l'Association des bibliothécaires de France, c'est l'association de toutes et tous les bibliothécaires professionnels et bénévoles qui se réunissent pour réfléchir, débattre, s'informer, se former et promouvoir les rôles des bibliothèques dans la société. Donc c'est un espace d'échange et de partage entre pairs, donc professionnels, mais sans les contraintes hiérarchiques propres à nos différentes postes ou lieux de travail. Donc qui compte aujourd'hui à peu près 2000 adhérents. Donc à l'intérieur de l'ABF, il y a des organisations, des groupes régionaux, mais il y a aussi des commissions thématiques qui sont des groupes ouverts également à tous, qui s'organisent autour de thématiques identifiées comme clés pour la profession. Donc la commission numérique a pour mission d'assurer une veille, d'informer et de conseiller la communauté professionnelle sur un ensemble de sujets touchant au numérique en bibliothèque, comme par exemple celui de ressources numériques, mais aussi celui de la RGPD par exemple, mais aussi sur le sujet de la médiation numérique auprès des publics. Car, en fait, il faut le savoir, les bibliothèques représentent une très grande partie des lieux accueillant des activités de médiation numérique. C'est le deuxième identifié par la MEDNUM en France, et donc juste après les locaux communaux. Et voilà que depuis que nous avons une loi aussi des bibliothèques en 2021, la loi Robert, c'est aussi partie de nos missions de contribuer à la réduction de l'électronisme. Donc, dans ce cadre, nous avons lancé...
Peut-être rappeler ce que oui, c'est pardon. L'électronisme. Non, c'est juste pour préciser...
Oui, bon, l'électronisme, on peut l'expliquer un peu de manière équivalente avec l'illettrisme, pardon, oui. Et donc, comme la façon de s'approprier du numérique, d'être aussi dans la capacité de participer de ce monde numérique. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était très clair. Si quelqu'un veut apporter d'autres définitions.
Non, je pense que oui. Donc, je suis pas étonnée d'apprendre que les bibliothèques sont un lieu central justement pour faire de la médiation numérique. D'ailleurs, avant de parler de l'enquête, j'ai oublié de vous poser une question que j'avais envie de vous poser parce que lors de l'émission de 2022, donc les libertés informatiques et bibliothèques universitaires plus en particulier, mon collègue Étienne avait posé une question très juste à nos personnes invitées. Il avait demandé ce que c'est une bibliothèque. Et moi aujourd'hui, je ne vais pas poser la même question. Je vais vous poser une question qui est pas loin. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'est une bibliothécaire. Comment définiriez votre mission et qu'est-ce qu'il vous plaît de votre mission? Arnaud, tu veux te lancer peut-être?
Oui, allez. La question est assez large, effectivement. Disons que pour moi, une bibliothécaire ou un bibliothécaire, c'est quelqu'un qui met en relation des usagers, des personnes avec un contenu culturel, quel qu'il soit. Ça peut être différents médias, différents contenus. C'est une définition assez large, mais qui, moi, me plaît bien parce que ça souligne le rôle de médiation des bibliothèques et les différents contenus culturels qu'on peut avoir, parce que même ça a beaucoup évolué, on associe encore beaucoup les bibliothèques aux livres, mais il y a beaucoup de contenus différents qu'on peut proposer en bibliothèque et une définition assez large me convient bien.
Anouk, tu veux donner ta définition de bibliothécaire?
Alors non, je me permettrai pas de donner ma définition, mais du coup j'ai
comment tu le ressens
Robert avant d'intervenir. En fait, la question est large et les missions sont larges aussi. La loi Robert, elle dit qu'on est censé garantir, enfin les bibliothèques sont censées garantir l'égal accès de tous à la culture, l'information, l'éducation, la recherche, les savoirs et les loisirs, et favoriser le développement de la lecture publique, mais du coup aussi donc c'est à travers les collections et des services et des activités et des outils. Quand je dis ça, vous avez compris que ça recouvre énormément de choses. Qui peut parfois se traduire sur le terrain par des difficultés du fait d'être un peu ces couteaux suisses où on est le seul lieu public ouvert et gratuit non commercial qui est identifié comme tel, et donc parfois on peut se retrouver dans des difficultés notamment vis-à-vis de l'inclusion numérique à devoir faire Pôle emploi ou France Travail, la préfecture, juste l'accompagnement technique qui pourrait relever un petit peu plus de la médiation numérique, mais aussi de la médiation administrative, et des fois ça peut poser des problèmes sur le terrain.
Merci pour ce témoignage. Et Rosario, tu veux dire quelque chose sur ta mission de bibliothécaire ?
Oui, je suis assez d'accord avec la définition de Arnaud. En fait, on dit souvent que on a aussi cette image de bibliothécaire comme le personnage qui s'occupe des livres. Et en fait, au-delà d'être orienté vers les livres, en fait, c'est plutôt vers les publics qu'il faut penser le métier. C'est-à-dire que nous, on est l'intermédiaire entre des ressources de tout type, comme Anouk a pu le dire sur ce qui est défini dans la loi Robert. Mais nous, on est cet intermédiaire aussi qui va mettre un public en contact avec ces ressources. Et en fait, ces ressources n'existent que parce que le public en a besoin et veut y accéder. Et voilà. Et aussi, on est cette interface, pas seulement dans des ressources qui sont des ressources mortes, entre guillemets, mais c'est aussi des ressources vivantes, c'est-à-dire on met aussi en place des rencontres, par exemple, entre des auteurs et un public, entre des pratiques vivantes et un public. Donc voilà, les bibliothécaires, pour moi, c'est un métier qui est couteau suisse, comme le dit Anouk, mais qui a aussi il y a le côté difficile de ça, mais il y a aussi le côté très riche de devoir se réinventer quotidiennement pour justement toucher ce public et mettre en contact ce public avec ces ressources-là.
Je disais que l'idée de cette émission m'a été donnée par l'enquête que l'Association des bibliothécaires de France donc a lancée sur l'utilisation des logiciels libres en bibliothèque. Avant même peut-être de parler de cette enquête, j'aimerais vous poser une autre question. Vous l'avez en partie dit, mais j'aimerais creuser peut-être un peu plus. Comment ça s'est passé, plus en détail, votre rencontre avec le logiciel libre? Quelle est votre utilisation personnelle du logiciel libre? On fait commencer peut-être Anouk cette fois.
Oui, alors moi je crois me souvenir, ça commence à remonter un petit peu, mais que c'était mon premier colocataire qui était lui faisait des études informatiques et très féru de cet univers-là, qui m'avait branché là-dessus, et du coup j'étais intéressée par cet aspect politique et émancipateur, et donc je suis sous Ubuntu depuis 2011, quelque chose comme ça, et puis voilà, après ça a été en creusant un petit peu, en autodidacte, en regardant un petit peu les associations qu'il pouvait y avoir, parce que donc je suis à côté de Lyon, c'est Lyon et Villeurbanne, c'est un terrain très riche associatif sur le sujet. Donc voilà, la rencontre s'est faite il y a un petit moment maintenant.
Si j'ai bien compris, ce sont les principes, la philosophie, l'éthique du logiciel libre qui t'ont séduit en principe.
Je n'ai jamais lu Linux pour les nuls. Par contre, j'ai lu la philosophie du logiciel libre de Broca. Donc voilà. Oui, c'est effectivement cette dimension émancipatrice. Le libre comme un moyen de pouvoir accéder au savoir, notamment, se l'approprier.
Est-ce que c'était la même chose pour Rosario?
Alors moi, je pense que je suis d'une autre génération que Anouk, mais j'ai commencé. Moi, j'étais très geek entre guillemets. Je viens du monde de l'art numérique, et donc à l'époque, moi, je faisais du Flash et ce genre de logiciel qui permettait de faire des choses qui n'étaient pas du tout libres. Donc, je me suis orientée vers le logiciel libre assez tard dans mon parcours, mais une fois que je suis rentrée, c'est devenu un peu une logique que j'utilise constamment. Donc c'est un ami qui m'a introduit dans ce monde, et ça a été cette rencontre aussi avec cette personne qui a pu m'expliquer l'intérêt, qui a pu un peu m'éveiller à ce monde du logiciel libre. Et depuis, voilà, moi j'utilise, à titre d'exemple, j'utilise Inkscape pour à peu près tout. Donc c'est un peu ce genre de choses qui, aujourd'hui, c'est mon usage.
Inkscape, c'est un logiciel très puissant de dessin vectoriel.
Oui, voilà.
Et quid pour Arnaud, comment tu as rencontré le libre et quelles sont les raisons qui t'ont poussé à l'utiliser déjà à titre personnel?
Un peu dans le même cas qu'Anouk, en fait. Moi, c'est plutôt un membre de ma famille qui a commencé à m'en parler à peu près à la même période qu'elle, pour le coup. J'avoue que j'ai pas été plus réceptif que ça au début parce que j'étais assez éloigné à l'époque de tout ce qui est numérique. Et après, c'est en travaillant en bibliothèque où là, j'ai eu plusieurs collègues très impliqués là-dedans qui m'en ont pas mal parlé. Et comme Anouk, c'est là plutôt la philosophie et l'éthique du livre qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a amené à développer un peu cet aspect-là. Et moi, dans ma pratique, j'utilise notamment Audacity parce qu'on fait pas mal de podcasts à la Bibliothèque de Toulouse. Donc, ça nous aide beaucoup pour le montage. Et on essaye de former les collègues là-dessus.
Je suis ravie de savoir que c'est dans les trois cas, c'est des relations, hein, amis, collègues, colocs, famille, avec lesquels vous avez rencontré le GC Libre pour la première fois. Bon, le moment est venu de donner la parole à Rosario pour nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est cette enquête que l'ABF a lancée. Déjà, pourquoi vous avez lancé cette enquête et quels étaient les buts? Et puis, on va peut-être voir plus tard ensemble quelques-unes des réponses et des conclusions que vous en avez tirées.
Oui, alors cette enquête, en fait, on est parti de l'idée que, voilà, on s'est rendu compte que le logiciel libre avait pas mal de choses en commun avec les missions des bibliothèques définies dans des textes un peu phares, fondamentaux, comme le manifeste de l'UNESCO sur les bibliothèques publiques, donc notamment sur le rôle des bibliothèques dans l'accès au savoir et à l'information. Et donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être des actions qui étaient faites dans les bibliothèques et on a voulu, avant de continuer une réflexion autour de l'intérêt d'utiliser les logiciels libres en bibliothèque, le faire entre nous à la commission, on s'est dit on va faire une enquête pour donner la parole aux bibliothécaires, aux personnes qui sont sur le terrain. Et donc, dans l'objectif à la fois de recenser les établissements et les pratiques existantes sur l'utilisation de logiciels libres, mais aussi on a ajouté les communs numériques pour parler de Wikipédia ou d'autres communs numériques par exemple, et donc recenser surtout sur des questions de médiation, sur des pratiques de médiation auprès du public. On s'est pas vraiment intéressé sur tout ce qui est logiciel métier par exemple, on était vraiment sur la question de la médiation numérique. On a aussi voulu comprendre les besoins des professionnels, donc identifier les obstacles, les difficultés que les professionnels peuvent rencontrer dans l'adoption de ces outils, et aussi finalement alimenter la réflexion sur l'intérêt de l'utilisation du logiciel libre des communs numériques en bibliothèque.
Excellente thématique que je vais d'ailleurs poser la question à nos personnes invitées. Quel est l'intérêt pour vous d'utiliser, de promouvoir le logiciel libre dans les bibliothèques? Ça paraît évident, mais peut-être pas tant que ça pour notre public. Qui veut prendre la parole? Peut-être Arnaud?
Oui, moi c'est plutôt cet aspect mise en commun des connaissances qui correspond vraiment aux missions des bibliothèques telles que les a définies Anouk et Rosario tout à l'heure. C'est vraiment l'essence pour moi du logiciel libre et c'est également l'essence des bibliothèques, donc ça paraît tout à fait logique qu'on aille vers ça.
Anouk, tu souhaites peut-être compléter?
Je rajouterais juste un petit point très pragmatique qui est que d'un point de vue économique et puis aussi dans les choix qu'on peut faire de où on met l'argent public, ça paraît pertinent d'aller vers le logiciel libre. Et également, si les gens apprennent sur un logiciel libre à la médiathèque, ils peuvent plus facilement le reproduire sur leur propre matériel puisque le logiciel est libre, donc beaucoup plus accessible pour eux. Donc aussi, de manière pragmatique, ça se tient complètement.
Et c'est un point de vue important, merci de le souligner. Rosario?
Alors moi, j'aimerais bien continuer à donner un petit peu la parole aux bibliothécaires qui ont répondu à cette enquête.
Excellent.
Et du coup, dans les réponses, la plupart des répondants ont donné comme argument que j'ai un peu, on a catégorisé, en fait, on a dit la première catégorie, c'est le partage et diffusion des savoirs. Donc ça, c'était vraiment le principal intérêt. Il y a aussi la question de la gratuité et de l'accessibilité à ces outils, donc Anouk le dit également. Donc le fait qu'on puisse accéder après coup, après avoir été initié dans la pratique en bibliothèque.
J'ai besoin, pardon, je travaille pour l'APRI, je me dois de préciser que le logiciel libre en soi il est pas gratuit, hein, ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie de le produire, mais c'est vrai que dans la plupart des cas il est accessible gratuitement, donc c'est son utilisation.
Exactement.
Voilà.
Exactement, c'est dans ce sens-là. Et ensuite, il y a aussi des questions d'émancipation et d'autonomie des usagers. Donc, donner des outils qui permettent, qui vont dans ce sens-là. Et ensuite, il y a la maîtrise des données personnelles, donc la transparence de ces outils, donc qui était aussi un intérêt important pour la médiation, en fait, quand on fait de la médiation numérique auprès du public et on veut expliquer ces notions de données personnelles, en fait, voilà, c'est l'utilisation de logiciels libres devient très intéressante et puis c'est assez logique de promouvoir ce genre d'outils. Et puis, finalement aussi, une question de diversité, d'alternative aux outils largement diffusés partout, comme les outils proposés par les GAFAM, notamment.
Dans les réseaux, il y avait aussi la pérennité et l'éco-responsabilité.
Oui, pardon. Exactement. La pérennité et l'éco-responsabilité, exactement. C'était aussi dans les raisons importantes. De l'utilisation en bibliothèque.
Donc je répète, l'enquête a été adressée aux bibliothécaires, donc voilà, aux personnes qui travaillent vraiment en bibliothèque, au contact des publics. C'est ce sont personnes-là qui ont donné les réponses, et les réponses ont été données entre octobre 2024 et février 2025, si je ne m'abuse. Il y a quelque chose qui s'est passé en octobre 2025, c'est-à-dire que Microsoft a annoncé la fin des mises à jour gratuites de Windows, et à ces moments-là, beaucoup de personnes, les médias avant tout, mais les personnes aussi, ont pris conscience du fait que des millions d'ordinateurs encore parfaitement fonctionnels risquaient d'être mis à la poubelle juste parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la nouvelle version de Windows. Donc je me demande peut-être que si l'enquête était faite aujourd'hui, peut-être que la question de l'éco-responsabilité, peut-être qui viendrait plus haut par rapport aux autres raisons, qui sait. Et puis autre chose, je me dis que si on avait fait la même enquête auprès des usagères des bibliothèques, peut-être que une question aussi comme la maîtrise de données personnelles serait revenue peut-être plus haut. Donc c'est intéressant de faire cette enquête parce que ça montre c'est vrai, c'est la cible était vraiment les bibliothèques. Donc je vous propose de faire une pause musicale là. Donc on va écouter un autre titre créé dans le cadre du projet Zyclibre en Bible. Donc c'est une hésitation par les journées de création musicale Zyclibre en Bible. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Des airs en pleine obsession, libre comme l'air pour oublier rancœur et contrefaçon. Se relever d'une hésitation, les yeux tournés vers les mirages, sans qui les grandira-t-on.
prendre le pouls de la déraison, choisir pour nous le meilleur et le pire sans compensation.
D'écouter une hésitation par les journées de création musicale Zic Libre en Bible, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Abel Lavani de l'April. Cette émission est consacrée à l'utilisation des logiciels libres en bibliothèque. Nous en parlons avec deux personnes invitées, Rosario Echeverri, Anouk Eichen et Arnaud Weissad, qui sont tous et toutes bibliothécaires, mais dans différentes bibliothèques en France. Et venons à un point, voilà, je voulais vous donner vraiment le temps suffisant pour dire tout ce que vous faites, en fait, dans le cadre de votre travail en bibliothèque, en médiathèque, autour du logiciel libre. Je vais peut-être commencer par Anouk. Tu disais que Lyon ou la région lyonnaise plus largement est très riche du côté du livre. Il y a beaucoup d'acteurs, d'associations, d'événements aussi qui se passent à Lyon, c'est qui facilite. On le verra peut-être sans doute les partenariats. Donc comment tu promos le logiciel libre en tant que médiatrice numérique dans la médiathèque du RIS?
Alors, il y a plein de manières. Je vais essayer de pas vous faire un tunnel, mais donc déjà, bah, dans mes collections, hein, tout simplement, quand on pense bibliothèque, on pense livre, papier. J'ai pas forcément un rayon dédié au libre, mais j'essaie d'être attentive à développer des thématiques qui vont pouvoir s'y raccrocher, que ça soit le numérique responsable. On a parlé de la sobriété numérique, la question de la vie privée, de la surveillance, du pouvoir autour du numérique. Donc déjà, ça passe aussi par le livre. On a un rôle de prescripteur quand on est bibliothécaire, et notamment sur la question technique, où les gens viennent souvent nous voir avec des problèmes qu'ils peuvent avoir avec le téléphone et l'ordinateur. Et ben moi, je conseille ce que je connais, et puis je conseille aussi ce qui va éviter de coûter trop cher aux gens. Donc je peux assez facilement les rediriger vers des acteurs locaux qui vont pouvoir, par exemple, leur proposer des ordinateurs reconditionnés ou des choses comme ça. Après, donc, et le cœur de mon action, ça va vraiment être l'action culturelle autour du libre. Et donc, j'ai à la fois la dimension rencontre des partenaires locaux du tissu associatif. Hein, ça peut être autour de discussions ou d'ateliers où il y a des intervenants qui viennent présenter un petit peu ce qu'ils font. Donc, je pense à OpenStreetMap. Mais j'ai reçu aussi des hébergeurs. Peut-être les auditeurs connaissent les chatons. Collectif d'hébergeurs autonomes, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Voilà, les fournisseurs d'accès internet associatif aussi. Nous, dans le coin, on a Elise, et puis aussi les Fab Labs qui peuvent exister autour de la bibliothèque. Donc voilà, ça passe vraiment par beaucoup de rencontres, un maximum. Et puis dans les ateliers que moi je peux mener, eh ben je vais essayer sans forcément le centrer officiellement autour du libre. Je vais proposer de la découverte de logiciels de création d'images. Eh ben il y a que des logiciels libres. Je vais essayer de faire un atelier sur comment créer son site. Eh ben je vais parler de Scribouille par exemple. On avait fait un atelier Minecraft parce que mon prédécesseur faisait beaucoup d'ateliers Minecraft. Les enfants aiment beaucoup Minecraft. J'ai fait un atelier Minecraft. Et puis là, cette année, j'ai fait un atelier Luanti. Personne n'a vu la différence. Enfin, j'ai dit que c'était Luanti, j'ai pas menti.
Minecraft, c'est un jeu.
C'est une plateforme de jeu un peu bac à sable sous forme de bloc et qui a été reproduit avec Mindtest maintenant Luanti, qui est vraiment sur le même principe, hein, qui est très 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 proche avec des blocs. Et donc, soit on choisit un jeu, mais on peut aussi faire sa maison. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc souvent, ça va passer par des ateliers sur d'autres sujets, mais pas à travers lesquels on va utiliser le logiciel libre. Et puis voilà, dans la formation aussi au quotidien, je vais conseiller aux gens plutôt d'utiliser Firefox si possible avec les bloqueurs de pub, mais pour leur sécurité aussi. C'est pas juste idéologique, c'est vraiment pour leur sécurité de tous les jours qui intéresse beaucoup les gens. Les solutions libres sont souvent les plus sécurisées aussi.
J'ai quoi me rappeler, Arnaud, tu vas me corriger bien sûr si je me trompe, mais je crois que c'est un petit peu l'esprit aussi du réseau de bibliothèques de Toulouse, c'est-à-dire mis à part des événements qui s'appellent vraiment installation de GNU Linux, mis à part cet événement très spécifique, si on regarde un petit peu les événements autour du numérique proposés par la bibliothèque, il n'y a pas forcément marqué on va parler d'un logiciel libre super. Par exemple, là, je suis une initiation logiciel GIMP. Dans l'affiche, on parle même pas de, on précise même pas que c'est un logiciel libre. On présente directement un outil pour faire de la retouche photo, par exemple. Est-ce que je me trompe ou c'est un petit peu le même esprit?
Non, c'est un peu ça. On a quelques actions vraiment très directes où là, il y a vraiment le logiciel libre dans l'intitulé. Sinon, on a pas mal d'actions autour du numérique qui font la part belle au logiciel libre sans forcément que ça apparaisse. On a par exemple beaucoup d'actions autour des tablettes graphiques et de l'art graphique, auquel cas là, les collègues utilisent pas mal Inkscape également, sans forcément le mettre en avant dans la description de l'action, mais tout en l'apprenant et le conseillant aux participants. On a des ateliers de musique assistée par ordinateur également, où les collègues également utilisent à cette occasion des logiciels libres. Et on a pas mal de choses autour du podcast, et nous on est sur Audacity et on promeut également ce logiciel, on le fait découvrir aux gens à l'occasion de ces ateliers.
Audacity, d'ailleurs, c'est un logiciel qu'on utilise nous aussi pour le traitement des musiques. Pourquoi c'est pas le logiciel libre, la qualité de logiciel libre qui est mise en avant? Est-ce qu'il y a une raison précise?
Non, parce que le sujet même de l'atelier, c'est soit le podcast, soit la musique assistée par ordinateur, et pas forcément le logiciel libre. Mais c'est une façon douce, entre guillemets, d'initier les gens à ces logiciels et de faire passer effectivement des messages sur la question éthique, la question de la protection des données, la question de la gratuité de ces outils-là.
Je crois qu'en amont de l'émission, on avait échangé avec Anouk. Je pense que cette approche te parle, n'est-ce pas?
Oui, parce que en bibliothèque, on s'adresse vraiment au grand public, au tout public, donc vraiment soit des familles, des retraités, des personnes qui peuvent parfois être dans le numérique par le travail, mais pas forcément par ailleurs plus que ça. Et donc, si on parle de logiciels libres, on va attirer des libristes, mais eux, je suis contente que les libristes viennent à certaines de mes animations, mais pour les initiations, ils s'ennuieraient un petit peu. Par contre, c'est le grand public que je veux toucher pour justement lui parler de logiciels libres. Et donc, même si on le met pas dans la promotion, on explique toujours, j'essaie toujours de dire ce que c'est le logiciel libre. Alors des fois ça c'est un peu embêtant de radoter toutes les animations, mais quand même de rappeler ce que c'est, par opposition à, comme j'essaie toujours de rappeler le modèle économique des autres, ça peut être les autres géants, par exemple quand on va parler de WhatsApp, parce que les gens ont des difficultés avec WhatsApp, je peux faire un atelier pour les aider avec leur messagerie, mais j'explique le modèle économique de WhatsApp et puis j'explique qu'il y a des alternatives à côté, comme Signal par exemple.
Rosario, est-ce que tu as, c'est assez récent ton arrivée à la médiathèque de Villeneuve-d'Ascq, est-ce que tu as déjà réussi à mettre en place des ateliers numériques autour du logiciel libre, ou qui parle du logiciel libre à un moment?
Alors, on va avoir un atelier prochainement sur Scratch, donc logiciel libre qui permet de faire la programmation pour surtout orientée pour les jeunes. Et mais moi, je l'ai déjà fait dans mon précédent poste. Je faisais déjà des animations et moi, c'était un peu le principe de l'April de priorité au logiciel libre. Ça fonctionnait un peu comme ça, sachant que des fois, ce n'est pas possible. Des fois, les usagers, ils viennent avec un besoin très spécifique. Ils ont déjà leur logiciel et ils veulent qu'on les aide là-dessus. Du coup, pour revenir à Villeneuve-d'Ascq, donc il y a cet atelier d'organiser, puis une install party qui devrait se faire aux alentours du mois de mars, donc pour le Libre en Fête.
Ah, on va parler parce que c'est le Libre en Fête, c'est une initiative coordonnée de l'April qui permet de faire découvrir le logiciel libre et la culture libre au grand public. Et c'est l'idée de mettre la lumière sur plusieurs événements organisés partout en France autour de l'équinoxe du printemps.
Voilà. Voilà. Et du coup, je suis déjà en contact avec l'association libriste du coin, donc Stinux, qui
on les salue.
qui viendra intervenir pour une install party.
D'accord. Si j'ai bien compris, pour le moment, ce sont plus des ateliers ponctuels, mais il y a une volonté, d'en faire d'autres. Et toi aussi, tu as mis l'accent sur l'importance des partenariats. Donc, Stinux, c'est un groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres local. Donc, c'est des groupes qui sont super importants. Ce sont des personnes, pour la plupart, bénévoles qui mettent à disposition leur temps et leurs compétences pour aider d'autres personnes à installer des logiciels libres, à les paramétrer, à les découvrir. Donc nous invitons vraiment les personnes qui souhaiteraient connaître un peu plus le libre à profiter de ces personnes, de ces ressources incroyables que vous avez à côté de chez vous, et vous avez l'agenda du libre pour les découvrir. Et Toulouse aussi, les bibliothèques de Toulouse aussi peuvent profiter d'un partenariat intéressant avec un GUL, un groupe d'utilisateurs et utilisatrices, n'est-ce pas, Ron?
Oui, nous on a un contact avec une association qui s'appelle Tout Libre, qui est très active sur Toulouse, qui organise chaque année un gros événement qui s'appelle le Capitole du Libre, qui recueille pas mal de promotions. Et ils nous ont contactés il y a déjà quelques années pour faire des ateliers à la bibliothèque. Et c'est vrai qu'on les sollicite régulièrement pour venir à la bibliothèque, soit faire des install parties, soit faire des permanences d'installation ou d'aide sur les logiciels numériques. Et on organise chaque année avec eux depuis 2 ans la journée Libre en Bib, qui est une grosse journée autour des logiciels libres dans les bibliothèques de Toulouse, qui coordonne plusieurs événements autour du libre.
Et parfois, ces ateliers numériques sortent du cadre même de la bibliothèque, non? C'est le cas de certaines animations que tu proposes, Anouk,
côté de Villeurbanne. Il faut que je cite mon GUL local aussi, sinon ils vont être en colère. Merci infiniment à l'Aldil qui m'a fait plusieurs cycles d'animation, l'install party, voilà, l'Aldil et ses bénévoles qui sont très précieux. Je remercie également l'Alice, qui est une association qui est la Pignon sur rue à Lyon et qui me dépanne à chaque fois que j'ai des soucis qui dépassent mes compétences techniques avec certains problèmes de PC d'usager. Donc vraiment, un grand merci à eux. Et puis oui, parfois je me permets des petites balades hors les murs. Alors on va pas très très loin parce que je vais pas non plus faire traverser la ville en métro, mais à 10 minutes à pied de notre bibliothèque, on a la chance d'avoir non pas un mais 2 Fab Labs. Donc on a la mine à Peyralières et le laboratoire ouvert Villeurbanne, dont je suis membre aussi à titre personnel. Et donc on peut faire des... En fait, eux, ils ont les compétences et le matériel, et moi, j'ai les usagers. Donc on réunit un petit peu nos forces en commun, et puis du coup ça permet de faire des ateliers vraiment sympas pour les gens, et puis de leur faire découvrir une ressource qui est pas loin de chez eux et potentiellement vers laquelle ils vont revenir plus tard, enfin je l'espère.
Je tenais à préciser parce que ça peut donner des idées pardon à d'autres bibliothèques, pourquoi pas, voilà et profiter aussi de la présence de Fab Lab ou Hackerspace comme ils veulent s'appeler près de chez vous. Anouk, tout à l'heure tu disais que tu t'étais un peu auto-formé logiciel libre, tu parles au grand public, tu t'adresses au grand public, donc il n'y a pas besoin vraiment de faire des ateliers qui descendent vraiment dans le hyper détail technique. Auto-formation, mais est-ce que tu as profité aussi de formation moins informelle en interne? C'est une question que j'aimerais poser aussi aux autres personnes.
Non, alors pour l'instant, j'ai pas vu ça au catalogue. Moi, je suis allée à titre personnel, sur mes deniers, mais souvent c'est gratuit, vraiment pas cher, me former auprès de l'atelier Soudé pour des cours d'électronique, auprès du Fab Lab aussi, le Love, pour des cours d'électronique, et auprès de l'Aldil pour des cours, des petits cours de programmation. Voilà, j'ai fait quelques séances comme ça par-ci par-là quand j'étais disponible en dehors de mes horaires de travail, mais la formation sur le logiciel libre au catalogue des formations de bibliothécaires, je n'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a et peut-être c'est juste moi qui les ai ratés.
Rosario, tu l'as vu toi?
La question de la formation, c'est toujours un peu le. Dans l'enquête, c'est une des choses qui est ressortie très fort. On se rend compte que c'est beaucoup de l'auto-formation ou une démarche en tout cas individuelle des personnes qui sont déjà sensibilisées sur ces outils. Donc c'est quelque chose qui nous semble problématique aussi, parce que effectivement si on veut aller vers ça, vers plus du logiciel libre en bibliothèque, il est important de l'inclure dans la formation, dans les formations des bibliothécaires.
Arnaud, tu me disais en amont de l'émission que parfois même les bibliothécaires eux et elles-mêmes ne connaissent pas forcément le logiciel libre, et parfois elles sont pas si proches non plus de l'informatique. Ça dépend des générations, des pratiques aussi. Et tu donnais beaucoup d'importance aussi aux échanges informels pour se former. Tu veux nous en parler?
Oui, un peu comme ce qui a été dit, nous, la principale source de formation, c'est l'échange de pratiques au final. C'est là, entre médiateurs numériques, on échange beaucoup sur les pratiques des uns et des autres, et on a la chance d'avoir un médiateur numérique qui est identifié sur la question des logiciels libres, donc il nous fait part de sa veille et de pas mal de pratiques et de bonnes pratiques à avoir. Après, effectivement, moi non plus, j'ai pas vu de formation métier, on va dire, vraiment dédiée au logiciel libre. Et comme tu disais, on s'aperçoit, nous, en interne, que certains collègues même des bibliothèques sont assez éloignés du numérique, qu'il y a là un effort de formation à faire vraiment avant même d'arriver au logiciel libre, mais ça peut y participer. Et on aimerait bien mettre en place un plan de formation pour les collègues sur le numérique qui ferait la part belle également au logiciel libre.
C'est pas le seul point de blocage pour mettre en pratique la médiation numérique autour du libre, d'après ce que vous avez trouvé avec l'enquête, n'est-ce pas, Rosario?
Oui, ça en fait partie, mais effectivement il y a d'autres points de blocage qui viennent, bon, principalement des choses qui a été beaucoup citées, c'était les problématiques avec les directions des services informatiques des communes, puisque généralement les bibliothèques, en tout cas publics, sont associés à des services informatiques qui ont leurs propres pratiques, et des fois ces pratiques-là sont pas forcément très ouvertes et ne permettent pas forcément d'installer nos logiciels de notre côté. Par exemple, moi, dans ma commune, je ne peux pas installer des logiciels facilement pour donner accès au public. Il faut que je passe toujours par une demande qui doit être étudiée par le service informatique, etc. Et des fois, il y a des répondants qui disent que c'est complètement verrouillé et qu'il n'y a pas moyen d'installer ce genre d'outils dans les machines professionnelles.
C'est ça la grosse différence que j'avais vue par rapport aux bibliothèques universitaires. On avait eu l'occasion d'échanger avec... J'avais noté les noms, mais je sais pas si je suis en mesure de vous les dire. Donc,
c'est peut-être Chloé Laïlic.
C'est Chloé Laïlic, et c'est aussi... Régine, mais je me souviens plus de son nom de famille. Désolée, Régine, de l'université de Nantes. Et toutes les deux disaient, le logiciel libre chez nous a la porte grande ouverte. du fait que il y a dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, c'est un peu un mot-clé, le logiciel libre. On va naturellement vers ces solutions-là. Et je me souviens que Chloé, justement, disait, j'ai un peu peur que pour ce qui concerne les bibliothèques municipales, peut-être que la réponse serait un peu différente, peut-être qu'ils seront un peu frustrés ou qu'ils ne seront pas soutenus autant que nous, alors que chez nous, c'est vraiment, on peut le dire, institutionnalisé. Et là, tu viens de m'en donner un exemple éclair. Donc le temps court vite. J'ai une question, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez remarqué une évolution dans la posture, dans les demandes qui vous posent les usagers et les usagères au cours des ateliers numériques dernièrement? Bien évidemment, je fais référence à l'actualité. L'actualité de la fin des mises à jour gratuites de Microsoft. Je ne sais pas si vous avez fait suffisamment d'ateliers ces derniers mois pour voir s'il y a des demandes différentes ou une évolution. Anouk?
Alors, une évolution, c'est un petit peu difficile à dire, parce que j'ai pas non plus énormément de recul. En tout cas, moi, mon install party a fait carton plein, hein. Il y avait 20 personnes qui sont inscrites, ce qui est beaucoup. Donc, effectivement, les gens, quand même, ont entendu parler. Après, on voit aussi des gens qui sont encore sous... J'ai vu un Windows 8 passer l'état sauvage il y a quelques mois encore. Enfin, il y a des gens qui sont au courant, mais qui voient pas forcément quelles alternatives sont possibles et qui sont, voilà, qu'on n'arrive pas forcément à atteindre. Et il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de tout ça, et donc pour qui les demandes vont être plus dans le temps long et vont peu évoluer, c'est-à-dire des demandes principalement de se sentir en sécurité. Et souvent, ce problème de Windows 10, c'est plus qu'ils ont peur que d'un coup, ils se fassent attaquer leur ordi. C'est plus des questions de, voilà, d'antivirus, de, donc je pense que ça reste dans les inquiétudes, simplement effectivement qu'on a un petit peu plus parlé, certaines personnes savent de quoi on parle quand on parle de Linux, où ils le demandent, mais je pense qu'il y en a plein aussi qui juste ont leur vieux ordi et ont peur. Et
c'est un jeu de la sécurité, donc.
Ouais.
Est-ce que ça fait carton plein aussi dans votre bibliothèque? Est-ce qu'ils font carton plein aussi dans votre bibliothèque, les ateliers que vous organisez ou vous coordonnez à Toulouse et à Villeneuve-d'Ascq?
Nous, à Toulouse, on a clairement vu quand même un impact de cette actualité là autour de Windows 10. Parce que pour nous, en gros, il y a eu trois temps. Il y a eu un temps où tous les ateliers qu'on faisait sur le logiciel libre n'intéressaient essentiellement que les libristes ou les gens qui étaient déjà un peu militants et pour lesquels la question éthique était très importante. Il y a eu un deuxième temps avec notamment l'arrivée du RGPD où la question des données personnelles a commencé à intéresser beaucoup les gens. Et on a vu des personnes arriver au logiciel libre par la question des données personnelles. Mais clairement, depuis toute l'actualité autour de Windows 10, les permanences, nous, qu'on organise, sont pleines, en fait. Il y a vraiment eu une prise de conscience de beaucoup de gens. Enfin, nous, à Toulouse, en tout cas, j'ai cette impression-là. Et depuis deux mois, tous les ateliers qu'on organise, les permanences d'aide numérique qu'on organise, les permanences d'installation, sont vraiment pleines à cause de ça.
Je ne peux que me réjouir de cette belle nouvelle. Rosario, est-ce que tu as pu voir une évolution, un changement?
Alors moi, du coup, j'ai pas encore organisé à Villeneuve-d'Ascq d'install party, mais du coup, ça me permet de corriger une erreur que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est plutôt CLX, l'association avec qui je suis en contact, pas HTinux, mais voilà. Et donc j'ai.
Mais on aime les deux. On nous aimons les deux, et on salue les deux.
Bien sûr. Et du coup, en échangeant avec eux, je suis venue participer à une install party pour voir un peu comment ça se passait avec eux. Et ils me racontaient que à la médiathèque de Roubaix, donc pas très loin de chez nous, c'était pareil depuis cette nouvelle de changement Windows 10 passage, tout ça. C'était rempli des gens, ils viennent et de tout type de public, en fait. Ce n'est plus seulement les habitués, mais ça s'est ouvert aussi à d'autres publics qui voient en ça une solution.
Donc, on va pas jusqu'à remercier Microsoft, mais c'est vrai que cette annonce a fait beaucoup, beaucoup de bien au logiciel libre. On ne peut que se réjouir de ça. Le temps file. J'ai absolument besoin de savoir, Rosario, quelles sont les suites de cette enquête, parce qu'elle vous a pris beaucoup de temps, bénévole d'ailleurs. Elle a donné des résultats qui sont encourageants par rapport à la volonté des bibliothécaires de continuer à promouvoir le logiciel libre en bibliothèque, malgré les points de blocage qu'on a un petit peu survolés. Quelles sont les prochaines actions que vous voulez mettre en place?
Alors, donc la toute première qui devrait sortir très rapidement, c'est une cartographie des établissements menant des actions de médiation avec les logiciels libres et les communs numériques, donc qui pourrait être visible sur notre site Lab en Bib. Et donc qui va recenser vraiment toutes les réponses de l'enquête, mais aussi qui sera ouverte à ajouter des choses si les bibliothèques elles souhaitent s'inscrire dans cette cartographie. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir visualiser où il y a des actions qui sont menées. Par exemple, s'il y a un endroit où on peut nous aider ou dépanner sur Linux quand on part en vacances avec son ordinateur, voilà, ça peut faire des lieux de référence. C'est dans cet objectif-là.
Très bien. Donc ça, c'est dans les clous, vraiment, dans les tuyaux.
Voilà. Ça devrait arriver très vite.
D'accord.
Mais comme tu l'expliquais, c'est du bénévolat, donc les temps, ils sont un petit peu étirés. La deuxième chose, c'est une présentation graphique illustrant les enjeux et les intérêts de ces outils pour vraiment, parce qu'il y a eu ça a été exprimé lors du résultat, un besoin aussi d'avoir des outils pour plaidoyer auprès des équipes, auprès de la hiérarchie et auprès des DSI. Donc, pour vraiment dire en quoi c'est intéressant, quelle est l'importance de ça.
Des argumentaires, on va dire.
En bibliothèque, des argumentaires. Mmh. Exactement, mais de manière très simple, très visuelle, histoire d'être accessible par tous.
Ce sera publié sous licence libre.
Bien sûr.
Donc, ça pourrait être utilisé aussi par d'autres organismes. Et
bien sûr.
Tu voulais parler d'une troisième action, peut-être?
Et du coup, la troisième action, c'est une Logitech du livre. Donc dans le sens où en bibliothèque on sait que des fois les choses qui sont numériques et qui restent numériques, si on dit aux gens d'aller cliquer sur un lien si déjà on le dit non, ça va avoir un impact, mais l'idée c'est qu'en bibliothèque aussi on a ce qu'on appelle des fantômes, c'est qu'on rematérialise des ressources numériques sur des supports physiques qui se placent dans la bibliothèque, qu'on peut vraiment toucher et prendre les mains. Et donc, on veut faire une Logitech du libre avec une quantité de logiciels libres qu'on va rematérialiser, mettre dans les rayonnages. Voilà, l'idée, c'est vraiment que les gens se découvrent peut-être en parcourant les étagères qu'il existe des alternatives et des ressources de ce type dans les bibliothèques. Et donc ça, pareil, ce sera à imprimer, à refabriquer dans chacune des structures avec licence libre, pouvoir customiser avec les logos de la structure, etc.
C'est la magie de la licence libre.
Voilà.
Le temps a filé à une vitesse. J'aurais aimé creuser davantage chaque point qu'on a abordé. Il nous reste vraiment une petite poignée de minutes avant la fin de notre échange. Donc, je vous propose donc de conclure en prenant tour à tour la parole pour nous dire quels sont selon vous les éléments clairs à retenir de cette émission. Vous pouvez sentir libre de profiter de ce temps aussi pour passer un message, faire une annonce, partager un coup de cœur. La seule condition de cette respecter 2 minutes max par personne. Anouk, tu veux commencer ?
Oui, bah pour aborder un sujet qu'on a peut-être un peu moins abordé, moi mon approche elle est vraiment technocritique et du coup j'aimerais bien que les bibliothèques puissent être des lieux où non seulement on explore les alternatives numériques mais aussi on se questionne sur la place du numérique dans nos vies et que ça soit pas que dans les bibliothèques mais que ça soit vraiment un lieu d'empouvoirment démocratique sur la place du numérique qui aujourd'hui quand même autant d'un point de vue social et écologique commence à déborder un petit peu.
Et ça semble juste contraditoire que ce soit une médiatrice numérique qui le dise, hein, mais au contraire, c'est.
Je suis prête à préparer ma fin, pas de souci.
Arnaud, quel message souhaites-tu passer ?
Ben moi, ce que je retiens un peu de l'émission, c'est quand même l'importance des partenariats et de la coopération autour de cette question. Parce que nous, je sais qu'à Toulouse, on pourrait pas faire grand-chose, ou du moins pas faire beaucoup sans certains de nos partenaires, et ça a l'air d'être un peu la même chose ailleurs. Donc déjà, je voudrais les remercier et dire que la coopération entre les différents acteurs est vraiment une clé pour continuer à avancer sur ce terrain-là. Et du coup, faire un peu de promo pour deux de nos groupes, les Wikimédiennes de Toulouse et la communauté OpenStreetMap de Toulouse, qui nous aident beaucoup et qui font beaucoup d'ateliers avec nous à la bibliothèque, dont les prochains seront au mois de janvier. Donc voilà, leur faire un peu de promo là-dessus.
Et Rosario ?
Alors moi, j'aimerais bien dire que, en fait, en parlant du rôle de bibliothécaire tout à l'heure, j'ai parlé du public et j'ai parlé aussi de notre rôle d'intermédiaire et je pense que on a une place d'intermédiaire de confiance beaucoup auprès de nos publics et je pense que voilà, c'est sur cette place-là qui me semble important de revenir par rapport à ces questions-là, de ne pas oublier voilà où on est, comment on peut aussi accompagner ce public, mais aussi développer avec ce public une culture numérique, pourquoi pas technocritique comme le propose Anouk, parce que effectivement moi j'adhère assez à cette vision là et voilà, avec ce public là de vraiment réfléchir à un numérique, à une culture numérique, à un numérique qui soit d'intérêt pour le public et pour nous, et voilà, et alimenter cette communauté et cette réflexion autour de ces questions là.
La relation comme point central aussi, hein. vous l'avez rappelé tous les trois. Je remercie énormément d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette émission et discuté avec nous. Donc je vous souhaite continuer à promouvoir dans le bonheur un numérique et un émancipateur et parler aussi du logiciel libre le plus possible. Et je profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin d'année et à bientôt peut-être. Merci beaucoup
pour l'invitation.
Merci.
Merci. À bonne bientôt. Fin d'année.